Libre Radio, la radio qui prend l'air et qui fait le beau temps. www.libradio.org.
Alors Cédric, bienvenue. Donc comme nous le disions, mais avec plaisir, comme nous le disions lors de l'introduction, lors du sommaire de cette émission, nous allons parler de la face cachée en guillemets de, ou pas du tout en guillemets, de Rafael Correa. Alors tu t'es donc toi rendu en Équateur. On va peut-être le rappeler, l'Équateur c'est un pays qui se trouve en Amérique latine, mais tout en haut à gauche. Voisin du Chili, Pérou.
Non, voisin Pérou, de la Colombie, Colombie et du Pérou, ouais, et du de l'intérieur du Brésil. Ouais. Ouais.
Dont la capitale est
Quito.
Quito, voilà. Mais la plus grande ville, c'est
Guayaquil.
Guayaquil, exactement. C'est un pays qui fait une surface de combien environ ?
Aucune idée.
Alors attends, moi il me semble me souvenir, à peu près 280 000 km², ça veut dire 5 fois la Suisse, ouais, habité d'une quinzaine de millions d'habitants.
Ouais, ça oui, 15 voilà, millions à peu près.
C'est juste pour que comme ça on trace un peu la silhouette du truc par rapport à la Suisse. C'est un pays qui est riche en matières premières, dont
Le pétrole et dont le cuivre et quelques autres minerais, bien entendu. Ouais.
Ouais. Alors toi, a priori, me semble-t-il, au départ, avant de t'y rendre, tu avais plutôt un prérequis favorable à Rafael Correa.
Écoute, moi j'ai un background politique à gauche ici et je crois comme à peu près tout le monde dans les gauches européennes, on a un avis favorable sur Correa quand il arrive au pouvoir en 2007. Quoi. Mm-hmm. Là clairement, quoi. Ouais. Comme tout le monde.
Et effectivement, en tout cas, les premiers signaux qui surgissent sont plutôt positifs. La nouvelle constitution, ouais, avec effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, des droits à la nature, des choses assez spéciales, assez singulières qui ont cours, qu'il met,
ouais,
en place.
Là, on était carrément dans une constitution qui était révolutionnaire, qui s'appelle la constitution de Montecristi en 2008, qui donne des droits à la nature, qui donne des droits aux minorités autochtones, quelque chose qui était dans le continent latino-américain encore jusque-là jamais vu. Quoi. Donc,
Ça, c'est en 2007. À quel moment est-ce que, selon toi, ça bascule ?
Ça bascule pour moi à partir de 2009, en fait. À ce moment-là, il y a une chute des revenus pétroliers qui est due à la chute du prix du baril de pétrole. Et puis, l'Équateur n'a jamais diversifié ses revenus. Et du coup, il se retrouve avec peu d'argent sur les bras. Dans le même temps, il s'est débarrassé de la dette du FMI. Mais du coup, il se retrouve avec un manque de liquide sur le moment qui est juste gigantesque. Quoi. Mmh. Et à ce moment-là, l'attitude de Correa, c'est d'aller chercher en Chine, du coup, ou alors les Chinois d'aller chercher Correa, ça, c'est jugera qui on voudra. Du coup, ils vont lui prêter beaucoup d'argent, mais en échange, évidemment, de matières premières, de cuivre, de pétrole, et, ouais, et tout ce qui s'ensuit.
Ouais, effectivement. Alors, effectivement, après, on va revenir spécifiquement sur les projets dont vous avez parlé au moment de votre intervention lors de la conférence de Rafael Correa. Mais j'avais quelques questions au préalable. Ouais. Selon toi, pourquoi est-ce que Correa se tourne vers la Chine alors que, pourquoi pas essayer de trouver peut-être des ressources et des alliés à l'intérieur même. Je pense par exemple à des rassemblements comme le Conseil bolivarien des Amériques. Enfin, il y a des regroupements de pays, notamment avec des alliances possibles. Effectivement, on a parlé de la Bolivie tout à l'heure, du Venezuela. Comment ça se fait selon toi qu'il soit allé en Chine chercher ses soutiens ?
Je pense que c'est en termes de marchés commerciaux. Enfin, je veux dire, la Chine aujourd'hui, c'est le number one en termes de marché commercial. Il y a une forte demande au niveau des matières premières, du cuivre, du lithium, du pétrole qui émane de la Chine. Je crois que c'était un réflexe assez logique de Correa d'aller chercher jusqu'à là-bas. Et puis, d'aller pas forcément dans les pays latino-américains qui finalement se retrouvent dans la même situation. Quoi, si tu prends le Venezuela ou la Bolivie.
Ouais. Toi, à ce moment-là, lui, Correa, à ce moment-là, la population, elle se détourne de Correa ? Elle a conscience de ça ou pas ? Je veux dire, au sein même du pays, on parlera après de l'extérieur où nous, les informations sont effectivement extrêmement déficitaires. Ouais. Mais dans le pays, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ?
En fait, je crois qu'il y a toute une couche de la population qui continue de soutenir Correa parce qu'elle n'est pas forcément menacée par les projets. Les projets miniers, les projets pétroliers, ils ont lieu dans des zones qui sont reculées, qui sont des zones à minorité autochtone, notamment les peuples chouars, et puis qui sont dans des zones aussi des paysans métis de l'Équateur. Donc, c'est des zones qui ne sont pas très habitées. Les grands centres urbains sont bien entendu épargnés par ces recherches pétrolières et minières. Et du coup, il y a toute une partie de la population qui continue à soutenir Correa, qui continue encore aujourd'hui d'ailleurs.
Tu penses à cette population plus urbaine peut-être ou...
Sans doute plus urbaine, ouais.
D'accord. Alors, toi, tu t'es rendu sur place. Ouais. Comment ça se fait? Pourquoi est-ce que tu t'es rendu et quand tu t'y es rendu?
Je m'y suis rendu l'année dernière avec ma compagne dans un voyage, on va dire initiatique, en Amérique latine. On voulait passer du bon temps en Amérique latine entre la Colombie et le Chili. Et on avait aussi dans l'idée de faire 6 mois de volontariat sur place pour qu'il y ait une cohérence pour nous en fait à l'intérieur de ce voyage. Et puis à travers cette idée de volontariat, on a trouvé en fait un projet accompagner des communautés locales dans la région de l'Intag, qui est une petite région à côté d'Otavalo au nord de Quito, qui est une petite région qui lutte contre de grands projets miniers, qui a des concessions minières sur l'ensemble de son territoire. Et puis on a trouvé ce projet sur internet, on s'y est greffé et on a passé 2 mois et demi sur place.
Ok, et alors voilà, vous arrivez là-bas et qu'est-ce que vous découvrez en termes de conditions de vie, de situation, de... parce qu'on parle également de répression, on va y venir après, mais donc là il y a vraiment quelque chose de systémique qui est mis en place pour que ces personnes-là ne soient étranglées.
En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ces gens-là luttent depuis plus de 25 ans contre des projets miniers sur leur terre. À la base, les concessions ont été prises par des entreprises japonaises qui ont été boutées dehors grâce à des méthodologies de lutte qui étaient assez intéressantes. Et puis ensuite, une entreprise canadienne qui, elle aussi, a été éjectée. Et enfin, en 2011, à partir de 2011-2012, c'est l'ENAMI, qui est l'entreprise nationale des mines équatoriennes, qui a repris la concession. Et du coup, à ce moment-là, c'est beaucoup plus difficile de les éjecter parce qu'eux, ils ont la force politique avec eux, ils ont la force militaire avec eux, ils ont la force de la justice avec eux. Et du coup, ces paysans se retrouvent dans une situation en fait, où là, il n'y a plus moyen de se débarrasser de ces concessions minières. Et puis, juste avant qu'on arrive, un an avant qu'on arrive, il y a eu une répression absolument extraordinaire puisque un des leaders a passé 10 mois en prison pour des faits qui lui sont reprochés, qui sont de sabotage, terrorisme et rébellion, alors qu'il était absent au moment des faits qui lui sont reprochés, qu'il y a des témoins oculaires de son absence, qui n'ont pas du tout été entendus par la justice. Du coup, il a passé 10 mois en prison, à tort, bien entendu. Et à la suite de ça, ils ont mis près de 300 soldats, donc le gouvernement a mis près de 300 soldats et 300 policiers à l'intérieur du village, et on parle d'un village de 200 personnes, là. Donc voilà, l'idée c'était vraiment de terroriser la population et puis que pour faire taire cette contestation de la mine, quoi. Mmh.
Lorsque ce soit au Parlement ou même dans les médias, si certains médias de contre-information relaient cette situation-là, comment se justifiait Rafael Correa, comment se justifie le pouvoir en place?
Mais je crois pas qu'il ait eu beaucoup à justifier, et c'est un peu ça le problème. Et c'est aussi pour ça qu'on voulait interrompre cette conférence, c'est que sur tous ces projets miniers, il y a peu de justification. Pourquoi? Parce qu'il y a peu de médiatisation, en fait. C'est des projets dans l'INTAG ou des projets dans la zone d'Amazonie équatorienne qui ont été très peu médiatisés, à l'exception du projet de Yasuni, qui a récolté, qui a eu une résonance mondiale. Mais parce que le gouvernement a voulu lui donner une résonance mondiale en se faisant une image de « oui, nous, on va négocier nos forages pétroliers contre de l'argent international pour avoir une belle image auprès des défenseurs de l'environnement et des gauches européennes ». Mais au-delà de ça, au-delà de ce projet de Yasuni, il n'y a pas de médiatisation des autres concessions à travers le pays, quoi.
Ouais. Et alors effectivement, toi tu l'as constaté là-bas sur place, mais quels sont les canaux qui peuvent être employés par les personnes sur place justement pour faire surgir ces informations-là? Est-ce qu'il y a des réseaux quand même qui se mettent en place pour que l'information soit fluide et que les personnes puissent réagir, se regrouper?
Alors petit à petit, oui. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'on a des gens en face qui sont des paysans, qui ont toujours vécu de l'agriculture, qui ont l'accès à Internet, c'est un accès tout à fait limité, ou alors qui n'existe absolument pas. Et du coup, il n'y a pas de fédération qui regroupe l'ensemble de ces personnes qui luttent contre les projets miniers. Il y a aujourd'hui des collectifs et des groupes qui sont créés pour un peu concentrer ces luttes contre les projets miniers en Équateur, mais c'est pas, voilà, on parle pas de quelque chose de très palpable, quoi.
Absolument. Selon toi, comment est-ce que, par palier, j'imagine, on sort de cette impasse? Est-ce qu'il y a, au bout du tunnel, on peut percevoir quand même une forme d'espoir, ou est-ce que vraiment là, c'est une résistance quasi de principe parce qu'on est face à des lobbies tels que, voilà.
J'ai envie de te dire oui, il y a une lumière au bout du tunnel parce que j'ai un peu d'espoir et puis que j'ai des potes sur place et que j'ai envie d'y croire. Mais le problème, c'est que en face d'eux, ils ont un État, quoi. Et la force de l'État, toi-même, tu sais, c'est quelque chose de relativement de puissant, quoi. Donc c'est difficile. Après, là, il y a des procédures en justice qui peuvent être mises en place là-bas. Elles sont engagées déjà en Équateur aujourd'hui. Il y a des dénonciations qui ont été faites devant les tribunaux des droits de la nature à Lima, etc. Donc il y a des choses qui ont été mises en place. Maintenant, enfin voilà, est-ce qu'on peut faire confiance à ces modes de résolution, ça, je ne sais pas. Ça.
Alors, on y vient justement à la communauté internationale. Est-ce que par ailleurs, on peut justement, de l'extérieur, faire quelque chose ? Est-ce que tu veux toi-même, Mauro, est-ce que tu veux toi-même poser ta question ?
Oui.
Eh oui.
Effectivement, merci. Qu'est-ce qu'on peut faire depuis ici ? Tu pars dans une radio suisse, je crois.
Oui.
Voilà. Alors, depuis la Suisse où tu t'exprimes, qu'est-ce qu'on pourrait y faire ?
Je pense que la chose la plus simple qu'on puisse faire, c'est de faire circuler le message. C'est-à-dire que les gens sur place ont une voix. Et aujourd'hui, on a des réseaux sociaux qui ne coûtent rien et qui nous permettent de faire circuler un message. Il y a des groupes sur Facebook qui existent. Il y a un groupe qui s'appelle Salvemos a Intag, qui est un groupe qui regroupe les opposants au projet minier dans la zone de l'Intag. Et ce genre de bah voilà, ça on peut le faire, ça on peut faire circuler ce message-là. Est-ce que ça suffit ? Sans doute pas, ça c'est sûr, quoi. C'est...
Ouais. Non, parce qu'en fait, il me semble que l'aide, c'est du fric. Hein. Il n'y a que ce langage-là qui parle dans le monde d'aujourd'hui. Si tu parles à la radio ici et que tu fais état d'une injustice ailleurs dans la planète, comme en Équateur, ben, à part le fric, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ?
C'est une bonne question, Mauro. C'est une très bonne question.
Merci de l'avoir soulevé. Non, mais oui, effectivement.
Non, mais c'est sûr que si tout d'un coup, tu arrives à me pondre énormément de fric là et puis qu'on puisse ensuite le faire tourner aux potes en Équateur, mais mec, je te serre dans les bras avec grand plaisir. Mais tant que ce petit miracle n'arrivera pas, ce qu'on peut faire, c'est au moins bah, être là, en discuter, parler, faire savoir que ça existe et puis contrer ces politiques-là. Quoi.
Donne un CCP. Donne un compte postal. Micro.
Je te propose de donner un compte postal ou faire des versements.
Je n'ai pas de compte postal, mais j'y réfléchirai avec plaisir. Je ne sais pas si les gens seront motivés à donner de l'argent, mais pourquoi pas.
Pourquoi pas. Oui, tout à fait.
Il y a toujours besoin, en tout cas, il y a toujours besoin de volontaires et de gens sur place aussi pour aller, parce que la présence des gens sur place qui sont un peu une forme d'observateurs internationaux finalement, elle joue aussi parce que la répression, elle peut pas s'installer aussi facilement s'il y a des internationaux sur place, parce que bah tiens, ça gêne, quoi. C'est un regard, c'est un témoignage, et le fait qu'on le mette sur internet, sur Facebook, bah ça leur déplaît, ils nous l'ont signifié plus d'une fois quand on y était sur place. Et ouais, donc la présence, enfin voilà, si on a le temps et l'énergie, aller en Équateur et puis s'investir, ça reste le mieux, quoi.
Sais-tu si tu as connaissance qu'une ONG ou un groupe de gens justement s'intéresse à ce cas-là, ou s'ils commencent justement à enquêter un petit peu?
Il y a des rapports qui ont été faits par la Fédération internationale des droits de l'homme, notamment en Équateur, qui a pondu des rapports sur la criminalisation de la protestation sociale en Équateur, et qui fait état du cas de Javier Ramirez, qui est ce leader de la lutte qui a fini 10 mois en prison. Donc il y a des associations qui s'y intéressent. Ouais. Il y a eu Amnesty International qui a pondu des rapports aussi.
D'accord. Donc ça commence d'une certaine manière quand même à surgir de plus en plus, pourrait-on dire. Enfin,
Gentiment, ouais.
Dis-moi, vous avez fait cette action donc à l'université. Est-ce que vous en avez eu quelques retours ? Est-ce que quand même certaines personnes de la communauté équatorienne se sont très concrètement ont fait un peu cette introspection et puis très empiriquement ont observé comme vous et vous ont peut-être rejoint ou parlé par la suite ?
À Genève, non. En soi, il faut dire que la majorité de la communauté équatorienne qui était présente à la conférence sont des supporters de Coréa. Et du coup, là, on s'est plutôt fait. Il y a plutôt eu une confrontation qu'un soutien. Mais on a eu la chance qu'il y ait eu un tweet qui soit parti à travers Internet et qui a déclenché une réaction en chaîne. Et en fait, il y a une dizaine de journaux équatoriens qui ont relayé l'information. Et du coup, nos potes équatoriens sur place étaient au courant avant même que nous, on fasse tourner l'information. Et pour le coup, ça veut dire que bah, tant mieux, quoi. Ça veut dire qu'on a réussi à passer le message. C'est un message de soutien avant tout, hein. On s'imaginait bien qu'ils n'allaient pas nous écouter, mais c'était un message de soutien à nos potes sur place. Et je crois que ce message de solidarité, c'est important qu'il traverse les frontières.
As-tu prévu ou pensez-vous à de prochaines actions du même type ou d'autres types d'actions qui pourraient justement continuer à implémenter cette lutte.
Eh ben, si le Correra il revient, c'est sûr qu'on va l'attraper de nouveau, on va pas se gêner. Hein. Au-delà de ça, non, pas spécialement, parce que bah, là, on avait envie de le faire, parce que lui, c'est le chantre de cette politique-là, c'est lui qui l'a mené pendant deux mandats, du coup, on se devait de le faire. Maintenant, comme j'ai dit, il y a toute une solidarité qui s'est mise en place sur Internet, à travers les réseaux sociaux, et notamment sur ce groupe de Salvemos à Intag. Et puis, bah, j'encourage tout le monde à se renseigner sur la situation, à aller lire des articles et puis à un petit peu rompre avec cette image de progressiste que peut avoir Correa dans les médias et dans les gauches européennes.
Effectivement, si on lit juste un petit extrait du papillon que vous avez distribué, Fuera la Correa, jusqu'à la fin de son mandat, Rafael Correa va continuer ses politiques extractivistes et répressives en concessionnant aux entreprises chinoises près de 80% de l'Amazonie équatorienne et 15% du pays. Là, on parle de territoires immenses, gigantesques.
Gigantesques, quoi. 80% de l'Amazonie équatorienne, c'est absolument... Enfin, ça dépasse l'entendement, quoi. On est au-delà de surface que tu peux imaginer. C'est juste barbare, quoi.
D'une certaine manière, sait-on les entreprises que... Voilà, je sais que le boycott a été et est toujours un des modes de résistance. Est-ce que là, saurait-on boycotter, qui boycotter s'il fallait le faire?
Je pense que c'est relativement difficile parce que là, on parle de grosses entreprises, notamment chinoises. Il y a énormément d'entreprises chinoises qui travaillent le pétrole ou le cuivre en Équateur. Je pense que c'est difficile de boycotter parce que finalement, ce n'est pas des entreprises avec lesquelles tu as des contacts directs où tu vas acheter les produits. Puis c'est des entreprises qui sortent les matières premières, qui vont les transformer, puis ensuite les redonner, les revendre à d'autres entreprises. Donc je pense que le terme de boycott, là, à mon avis, ne rentre pas forcément en ligne de compte.
Alors, on arrive doucement à la fin de cet entretien. Alors, bien entendu, si autour de nous des questions surgissent, il ne faut pas hésiter. Et moi, j'ai envie de te demander, est-ce que, voilà, il y aurait l'idée, pourquoi pas ici, de créer peut-être un groupe d'observation, un groupe d'alerte au moins, et si c'était parmi les projets qui te... ou y en a-t-il d'autres, peut-être que tu aurais envie de nous livrer. Y aurait-il besoin de personnes qui te rejoignent? Et si c'était le cas, comment ces personnes peuvent te contacter, rejoindre un peu tout ça, ou juste vraiment se tenir informé?
Il y a toujours besoin de monde, alors ça c'est clair, dans les luttes, quelles qu'elles soient, et mes collègues d'après vous le diront très bien, il y a toujours besoin de monde pour mener ces luttes et pour les faire suivre dans le temps. Moi, ce que je propose aux gens, c'est de venir sur ces groupes de Salvemos a Intag qu'on a sur Facebook. Là-dessus, ils y trouveront toute une série d'informations, de textes, d'analyses politiques qui ont été faites par des gens sur place et à l'étranger. Et puis, s'il y a la volonté de se rendre sur place, mais tant mieux, faites-le. Nous, on cherche toujours des gens pour avoir une présence en continu dans la région de l'Intag. Pour l'instant, il y a une volontaire qui est là-bas, une volontaire française qui est en ce moment en Intag. Il y a une présence continue depuis quasiment 2 ans de volontaires qui se succèdent en Intag. Donc j'encourage avec grand plaisir, avec détermination, les gens à se rejoindre ce groupe de Salvemos a Intag et dans le cas échéant, à nous proposer leur présence et leur force et leur détermination pour aller lutter sur la zone. Quoi.
Ok. Toi-même, est-ce que tu as prévu de retourner là-bas? Et si oui, est-ce que c'est sans danger?
Moi j'aimerais bien y retourner. Heureusement, vous n'avez pas mon nom de famille, donc si jamais, Correa, tu nous écoutes, ne me raye pas des listes de ton pays. Mais évidemment que c'est sans danger. Enfin, voilà, enfin, après, c'est une lutte, il y a une répression. Hein. On parle d'une répression policière, d'une répression militaire. On part pas au front, on n'est pas dans un danger qui est 100% omniprésent. Après, bah, ça reste des méthodologies de lutte qui sont relativement frontales. On n'est pas dans le danger, il n'y a pas de risque encouru par les personnes. Et puis, on est toujours protégé par cette espèce de statut d'observateur international qui est délivré par une association équatorienne. Et ouais, non, le danger n'existe pas tant.
En tout cas, pour les intervenants, les extérieurs, disons, là, on peut dire que
le danger existe, il existe pour les paysans qui luttent sur place et puis pour le peuple chuar. Et le danger existe puisqu'il y a des personnes qui ont été assassinées et emprisonnées sous le mandat Correa. Donc là, pour ces personnes-là, et je leur tire mon chapeau, là, le danger existe. Ouais.
Alors voilà, je voulais en terminer là-dessus. L'état de la répression actuellement, l'état de la liberté médiatique de la presse en Équateur actuellement, selon toi, où est-ce qu'on en est ? Le curseur s'est déplacé depuis ces quelques années, où est-ce qu'on en est ?
Bah, ça a été de pire en pire hein, pendant le mandat Correa. On est arrivé jusqu'en 2017, au moment où on arrive à la fin de son mandat, où les derniers mois du mandat, il a profité des derniers mois pour enfoncer le clou dans la zone du sud-est du pays avec les communautés chouar qui étaient en lutte, où il a imposé l'état d'urgence dans la zone, où il y a des militaires et de policiers qui ont envahi la zone et des dizaines de leaders communautaires qui ont été emprisonnés, quoi. Et puis ça, c'est une des marques qui montre cette répression, mais il y a eu aussi l'assassinat en 2014 de leader chouar José Tendenza. Il y a eu l'emprisonnement de Pedro Machiante et de Pepe Acacho, qui sont deux leaders chouar qui ont été emprisonnés à tort. Enfin, voilà, les cas de répression ont parsemé les deux mandats de Correa, et il est temps qu'on en parle pour un peu rompre avec cette image progressiste et angélique et tout ce qu'on veut de Correa.
D'accord. À moins qu'il y ait des questions, j'ai une dernière question moi-même, mais non. Alors oui.
Ouais, moi de manière générale, je me posais la question, puis je suis assez déçu et assez triste d'entendre tout ça. Et c'est valable pour l'Amérique latine, ça a été valable pour l'Europe et tout. Chaque fois qu'il y a du côté gauche, il y a des réels progrès, il y a toujours un prix énorme à payer. On a vu avec le bolchevisme, en ex-URSS, etc. Et maintenant, l'Amérique latine aussi essaye d'avoir une progression au niveau social, avec toujours un prix énorme à payer. On a vu, par exemple, au Brésil, le président Lula. Il y a eu un prix à payer qui était énorme. Tout n'est pas clair non plus. Au Venezuela, avec Maduro, c'est pas tout clair non plus. C'est pas tout net. Hein. On peut pas, je veux pas lui jeter la pierre parce que c'est un peu comme une espèce de ultime résistant face au capitalisme. C'est toujours quand on est face au capitalisme, le capitalisme est tellement fort, brut, etc., avec l'argent qui arrive toujours en avant. C'est se défendre contre cette société-là, c'est tellement difficile que j'ai envie il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, quoi. Ouais. C'est un peu dans ce sens-là que j'ai envie de dire... Parce que c'est clair qu'il faut dénoncer, surtout que les peuples autochtones, c'est toujours eux qui payent le prix fort. On va au Brésil, c'est la même histoire, hein, ils payent le prix fort. Hein, c'est exactement, là, c'est aussi le pétrole, c'est le bois, c'est tout ce qu'on veut. Ils ont été construits des stades de foot au milieu de la jungle, qui maintenant ne sert à plus rien, etc. Quoi. Et voilà, comme mon cri un peu, c'est de dire... dénoncer les choses qui vont pas, c'est bien, mais en même temps, il faut arriver à quelque chose de constructif et qui va dans le même sens que les buts qu'on a pris en compte, quoi. Ouais.
Je suis d'accord avec toi, hein, dans le fond, mais à mon sens, aucune politique aussi belle et progressiste et ancrée à gauche qu'elle soit ne justifie la répression des minorités autochtones, la répression des paysans, l'enfermement des personnes et des leaders de communautés. Pour moi, là, on est dans un paradoxe, quoi. Quelqu'un qui vante des politiques de progrès, une justice, une paix sociale, et puis qui, de l'autre côté, va aller taper sur les minorités et les déloger de leur territoire, les déloger de leur maison pour y installer des mines. On est dans quelque chose que moi, en tant que, ouais, je sais pas, que moi, je peux pas tolérer, tout simplement. Ouais.
Pour en finir, selon toi, Lénine Moreno, c'est la continuation de l'extractivisme, la continuation de la politique de Rafael Correa, ou est-ce que là, il y a peut-être moyen d'avoir une rupture ou quelque chose qui se remette en question ?
Il faut pas oublier que Lénine Moreno, c'est quand même le bras droit de Correa à la base. Donc, si on est logique, oui, c'est la continuité. Aujourd'hui, il y a une petite friction qui existe entre les deux. Est-ce que cette friction sera signe d'un renouveau pour les populations menacées par les projets miniers et extractivistes en Équateur ? Je l'espère, mais bon, enfin voilà, c'est une espérance un petit peu tirée par les cheveux, et je doute qu'il puisse prendre le contre-pied des politiques qui ont été menées par Correa, et je pense qu'il va continuer à entériner ces politiques répressives et extractivistes en Équateur.
D'accord. Merci beaucoup Cédric
pour toutes
ces informations-là. Nous, on se tiendra bien entendu en alerte par rapport à ça. On te sollicitera bien entendu plus loin pour savoir comment peut-on faire, comment est-ce que peut-être qu'avec, pourquoi pas, une émission avec en face de nous, de l'autre côté de l'océan, et bien des gens de là-bas, avec des témoignages. Enfin, on verra tout ça. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup de tout ce travail qui est fait contre information.
Écoute, merci à toi.
Et courage pour la suite.
Merci.
Voilà, alors on va faire une petite pause musicale et puis juste derrière, nous allons enchaîner avec Patricia et Joël qui viennent nous parler de ces primes d'assurance. Qu'en est-il ? Pourquoi est-ce qu'elles s'envolent comme ça ? Est-ce qu'à un moment donné, on va museler ces gens-là ? Est-ce que quelque chose est possible ici en Suisse et à Genève plus particulièrement ? Petite pause musicale et on revient juste derrière.
Lonely as I am together.